Musique, Frédéric Huttmann.
Bonjour Frédéric Huttmann. Au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de notre entretien avec le violoniste, romancier Yigal Shamir. Bonsoir. On vous avait quitté en France dans les années 60. Vous étiez né en Palestine mandataire en 1938, vos parents qui venaient de Pologne. Après, vous vous êtes retrouvé dans les années 50 en Belgique, en Suisse. Là, en France, toujours violoniste, avec toujours des activités qui complètent, entre guillemets, cette activité de violoniste. Donc là, on a parlé aviation, on a parlé Pompidou. Et donc là, on arrive en France...
On arrive à la Cité des Arts. Et à la Cité des Arts, et on frappe à ma porte et je vois arriver deux gars qui me disent qu'ils sont reporters de Paris Match et qu'ils connaissent ma vie par cœur et qu'ils vont faire une enquête sur moi, sur mes activités pas d'agent secret, mais de quelqu'un qui était important dans le monde parallèle.
Mais ça, c'est en quelle année? Début des années 70?
L'année 68. Je suis arrivé en 68, c'était dans 69. Et je dis, mais quel est votre intérêt de ma vie? Ah, mais nous sommes en train d'enquêter sur la vie de Pompidou. C'était l'affaire Markovitch.
Oui.
Et j'ai tout d'un coup compris que j'allais être impliqué dans la vie de Pompidou comme quelqu'un qui n'était pas à sa place.
Mais vous n'êtes pas retrouvé avec Alain Delon quand même.
Non, parce que j'ai eu à la Cité des Arts les studios d'un Français,
oui,
alors que j'étais israélien. Et c'est ça qui les a incités à me mêler dans un truc contre Pompidou. Donc, j'étais très embêté, si vous voulez, parce que je ne voulais absolument pas de cette interview par image. Et étant donné que j'étais en relation très amicale avec Simenon,
oui,
j'ai téléphoné à Simenon en disant qu'est-ce
que vous l'aviez connu à Bruxelles,
Simenon? Non, j'ai connu en Suisse.
Ah, d'accord.
En fait, c'est encore une autre histoire, ça. C'était encore une histoire. Et Simenon était très intrigué par moi parce que j'avais à l'époque une Rolls.
Oui.
Et dans une station de service, il a demandé au pompier qui est ce type.
Pompiste, oui.
Qui est ce type?
Et
est-ce que c'est le chauffeur de quelqu'un? Et le pompiste lui a dit non, c'est sa voiture, vous savez, c'est un violoniste. Alors il dit comment, avec un violon, on peut gagner ça? Et nous sommes devenus très amis à partir de là.
Ah ouais.
Oui, oui. Donc, je téléphone à Simenon et Simenon m'a dit, déjà à l'époque, je vous ai dit que vous étiez né pour écrire. Alors écrivez votre livre. Allez très vite, beaucoup plus vite que Paris Match. Donc, j'ai écrit en une semaine la cinquième corde. Et il m'a envoyé donc chez son éditeur, le président de la cité, Nielsen.
Oui.
Nielsen m'a reçu en disant, ouais, Simenon m'a dit de choses formidables, cerveau. Ouais. Et voilà. Alors, j'ai dit, j'ai écrit le livre. Et le livre, donc, est sorti,
fin 70.
Et il a été tout de suite, un best-seller, et c'est là où on a négocié l'histoire de faire un film ou ne pas faire un film.
Et on vous a proposé d'en faire un James Bond.
On m'a proposé de faire un James Bond.
Vous avez refusé.
C'est les Américains qui ont proposé à Nielsen de prendre le livre, de faire un James Bond. Donc, je me suis opposé.
Vous auriez pu être incarné par Sean Connery, vous vous rendez compte, qui joue un violoniste israélien, ça aurait été quand même inhabituel.
Une connerie en plus.
Et donc, vous vous retrouvez à refuser James Bond.
Donc, j'ai refusé parce qu'à l'époque, je n'avais pas besoin. C'est-à-dire qu'on a essayé de me flatter pour les prix des ventes. Et ça m'a pas du tout flatté d'abord. Et j'en avais absolument pas besoin d'argent.
Oui.
Et donc, je me suis opposé. Et ce livre a été quelque part détourné. On a pris l'idée d'un violoniste qui fait autre chose que le violon.
Oui,
une aventure, pour en faire le film Le Grand Blanc et le Chausson Noir.
Oui, mais alors vous n'êtes pas au générique de ce film. En fait, ils vous ont racheté les droits de manière forfaitaire.
Absolument, oui. On n'a même pas acheté les droits. On m'a donné un chèque pour que je ne parle pas.
Oui, pour acheter en quelque sorte l'idée.
Oui, c'est l'idée.
Et donc, vous vous retrouvez avec ce livre. Et après, vous avez écrit quelques autres livres.
Donc, il y a ce livre et qui fait quand même qu'on parle de moi à la radio, à la télévision, qui fait de moi un personnage. Mais déjà avant, j'avais l'idée d'exploiter la musique d'une manière différente que dans les salles de concert.
Oui.
Et j'avais repéré que dans les mondes musicaux, quand on parle d'un concerto ou d'une sonate pour violon, les gens ne retiennent qu'une phrase.
Oui.
Pourquoi ne pas prendre cette phrase-là et en faire un disque ou des mélodies populaires? Et je commençais à... Donc, j'ai proposé une marque de disque de faire le 40e de Mozart. C'était devenu tout de suite un très, très grand best-seller.
Et c'était un arrangement pour violon?
Oui, c'était un arrangement. Par la suite, j'ai sorti un disque qui était un disque qui était La Folia,
oui,
de Corelli.
Oui.
Et j'ai appris que Corelli, au départ, a pris cette mélodie en Espagne. Et oui, c'était une mélodie des mondes juifs,
oui,
La Folia. Et c'était un disque qui s'est vendu à des très grandes...
Mais c'est vous qui faisiez les arrangements?
C'est moi qui ai fait les arrangements.
Et les autres musiciens, ils venaient d'où?
Mais c'est les marques de disques qui ont engagé des musiciens. J'ai fait beaucoup de disques populaires.
Mais sous le nom de Yigal Shamir?
Oui, sous le nom de Yigal Shamir.
Non, pas le, vous n'avez pas pris le nom russe pour vous faire subventionner par Onassis.
J'aurais pu prendre quelque chose d'autre, mais je n'ai jamais pensé que j'allais refaire une carrière classique.
Oui.
J'ai fait des disques chez CBS, chez Philips, chez La Durium. Plusieurs marques, la RCA, j'ai plusieurs marques de disques qui ont enregistré.
Ça a duré toutes les années 70.
Oui, c'est des 70 jusqu'à presque 80. Oui.
D'accord. Et après, oui, vous avez arrêté.
Je n'ai pas aimé l'univers des showbiz. Ça n'allait pas avec ma personnalité ni avec ma façon de vivre.
Oui.
Donc, mais c'était quand même un épisode très important parce qu'il y a un disque que j'ai enregistré qui est Viva Paganini, qui est devenu un très très grand disque dans le monde entier. Et qui est toujours sur YouTube.
Oui, j'ai pu l'écouter via YouTube.
Mais c'était
Yigal Shamir.
Et j'ai jamais compris comment, avec des fragments de musique classique, on arrive à gagner tant d'argent et être aussi.
C'est un des rares, hein, parce que
c'est incroyable.
Et les livres, alors, vous avez écrit des.
Non, mais ça,
policiers.
C'est très tardif. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, je rencontre quelqu'un d'important dans ma vie, qui était chirurgien dentiste et qui m'a dit, écoute, avec un talent que tu as, c'est la musique classique qu'il faut. Si tu veux rester dans le showbiz, c'est pas avec moi. Et finalement, c'était un choix de vie pour vivre avec elle et de quitter le showbiz. Parce que j'avais des projets dans le showbiz qui étaient très importants.
Et donc, toutes ces relations, vous les aviez où? En France, en Suisse, en Belgique?
En France, en Belgique.
Vous gardiez des liens avec Israël pendant ce temps-là?
Pas tellement, non. C'est-à-dire qu'à partir du livre « La cinquième corde », je n'avais plus de bonnes relations avec l'État d'Israël. L'État d'Israël m'a accusé d'avoir utilisé ma vie à l'armée pour en faire une carrière personnelle.
D'accord. Mais vous continuez à aller en Israël? Vous
avez continué après? Oui, bien sûr, oui.
Et vous avez de la famille encore en Israël?
Aucune famille. Mes parents sont morts il y a déjà très longtemps. J'ai aucune famille en Israël. Et pour vous dire la vérité, je n'ai pas retrouvé les pays dans lesquels je suis né. Et ça m'a beaucoup gêné durant toute ma carrière.
Mais quels étaient les violonistes que vous... On a parlé d'Arthur Grumiaux, on a parlé de Heifetz.
Heifetz, Grumiaux...
Quels étaient les autres violonistes?
Menuhin... Non, j'ai connu pratiquement tous les grands violonistes. Tous les grands violonistes qui sont...
En France, vous avez connu Christian Ferras ou...
Je n'ai pas connu Christian Ferras, non.
Mais donc, vous avez connu Isaac Stern?
Schering, Stern, oui. Avec Stern, j'avais un projet un jour, c'est d'aller à Jérusalem... Et jouait devant les murs. Et à la dernière minute, Stern avait annulé les voyages, donc ça n'a pas été fait. Et d'ailleurs, Paris Match était branché là-dessus pour en faire un reportage. Samir et Stern devant les murs.
Oui.
Et ça n'a pas été...
Vous avez eu les lamentations, mais pas le concert.
Oui, lamentations.
Et donc, qu'est-ce
non,
que vous avez
Non, c'est devenu lamentable.
Vous avez quoi comme autres images en mémoire de rencontres que vous voulez évoquer dans la musique? Miguel Shamir.
Des images, d'autres images. J'ai pas vraiment des...
Oui, parce que vous avez suivi un chemin de traverse quand même. Mais Menuhin, oui, vous en avez...
C'est-à-dire que chaque fois que j'avais un contact avec un grand violoniste, il était beaucoup plus intéressé en moi que moi intéressé en lui.
Ah bon?
Oui, parce qu'ils étaient toujours intrigués par ma façon de jouer et par ma façon de vivre. Et c'était un point qui nous séparait toujours. Je dois quand même dire que le livre de la cinquième corde m'a fait finalement posséder un violon Stradivarius.
Ah oui?
Ouais.
Quoi, tellement vous avez eu des droits avec ce livre et les conséquences?
Non, mais j'ai connu quelqu'un qui a regardé une émission à la télévision, qui était un antiquaire,
oui.
Et qui m'a dit « J'ai acheté un coffre chinois,
oui.
Qui était fermé et qui appartenait à un missionnaire chinois.
Oui. »
Et on a ouvert finalement ce coffre et il y a un violon à l'intérieur. Il ne savait même pas ce que c'était. Moi, je vous ai vu à la télévision et j'ai envie de vous offrir ce violon. Donc, il m'a offert ce violon et c'était un Stradivarius de 1690.
Et vous l'avez toujours?
Non, je l'ai vendu à un moment donné parce que j'avais besoin de...
De payer l'essence pour la Rolls.
De payer mon loyer.
Et donc là, on se retrouve dans les années 80 et c'est là où l'écriture vous a repris. Avec des romans policiers.
Non, ça c'est...
Le violon d'Hitler.
Le violon d'Hitler a été écrit beaucoup plus tard.
Oui.
C'est-à-dire qu'un jour, ma femme est tombée, elle s'est cassée une jambe et elle ne pouvait plus travailler. Et je me suis demandé avec quoi on allait pouvoir payer les frais d'un très grand appartement à Paris. Et je me suis dit, bon, je vais écrire un autre livre. Cet autre livre était inspiré par quelque chose que j'avais découvert à Venise, en donnant un concert à Venise. J'ai trouvé dans les archives des indications comme quoi Monteverdi n'était pas seul pour écrire ses œuvres. Il avait quelqu'un qui était...
Salomone Rossi.
Rossi.
On voilà. lui doit d'ailleurs un oratorio Esther, ben Salomone
oui,
Rossi,
ben oui.
en hébreu. Et donc, vous avez découvert...
Et cette idée, je l'ai portée avec moi pour dire, un jour, je vais écrire un livre sur Rossi. Et j'ai écrit ce livre sur Rossi. J'ai envoyé un synopsis à Plon, chez Plon. Et Olivier Urban m'a téléphoné 2 jours plus tard en disant « Votre sujet est formidable, venez me voir, on va signer un contrat. » Et quand j'étais chez lui pour signer le contrat, il m'a dit « J'ai quand même quelque chose qui me gêne, c'est que vous, c'est un sujet trop musical, même si vous parlez des violons et des Rossi, ça intéressera très peu de gens. Il faut trouver une idée. »
Une intrigue, oui.
Pour écrire autre chose. Alors j'ai écrit une deuxième version de violon d'Hitler. D'ailleurs, il s'appelait pas au départ le violon d'Hitler. C'était toujours lié à la musique, à Monteverdi et à Venise. Et la deuxième version, il a dit, écoutez, c'est toujours très bien, mais c'est toujours pas bien du tout. Il faut trouver une idée pleine de suspense, pour intéresser les gens à travers les suspens, et c'est à travers ça qu'ils vont découvrir qui était Rossi et Monteverdi. Et donc, j'ai été en liaison à l'époque avec des gens qui avaient un château dans la Nièvre, et j'ai appris que Hitler aurait peut-être pu passer par là pour négocier avec Dale, qui était envoyé par Kennedy, pour... et empêcher l'Amérique d'entrer en guerre. Et j'ai lié les deux ensemble comme quelque chose qui s'est passé dans ce château et qui nous renvoie vers Venise plus tard. Mais l'idée de ce livre, c'était les violons comme symbole des peuples juifs, puisque Hitler aussi considérait que les violons, il adorait les violons, et pour lui, c'était un symbole judaïque.
En tout cas, c'est un livre palpitant, Yigal Shamir. Nous voilà arrivés au terme de ce deuxième entretien. J'espère qu'on aura l'occasion d'évoquer encore beaucoup de choses, parce qu'il y a des ellipses dans
oui,
votre itinéraire.
Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Oui.
Oui, ben on se retrouvera pour un troisième entretien pour évoquer tout ça. En tout cas, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci à vous.
Pour illustrer cet entretien avec Yigal Shamir, je vous propose d'écouter des œuvres qu'on n'entend pas trop habituellement dans une émission de musique classique, mais le violon d'Yigal Shamir, accompagné par un orchestre aux sonorités traditionnelles pour des évocations de l'univers musical juif. Je vous en souhaite une très belle écoute. Très bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank you. Thank you.